Émile et les détectives par Erich Kästner. Troisième cassette, deuxième face. Page 143.
Attendez ! S'écria soudain Émile, et il sauta en l'air tant il se sentait tout à coup soulagé.
Attendez. Dans le train, j'avais attaché mes billets à la doublure de ma poche avec une épingle. On doit voir les trous d'épingle dans ces billets. Le caissier regarda les billets en transparence. Les respirations étaient suspendues. Le voleur recula d'un pas. Le directeur, très nerveux, tambourinait sur la table.
Le gamin a raison, s'écria le caissier tout pâle d'émotion. Les billets portent en effet des trous d'épingle.
Et voici l'épingle qui les a faits, dit Émile en posant fièrement l'épingle sur la table.
Je m'y suis même piqué.
Avec la rapidité de l'éclair, le voleur fit demi-tour, repoussa brutalement les gamins à droite et à gauche, traversa la salle en courant, se rua sur la porte et disparut.
« Courez après lui !» cria le directeur.
Tout le monde se précipita. Quand on arriva dans la rue, le voleur était déjà aux prises avec une vingtaine de gamins au moins. Il s'accrochait à ses jambes, se pendait à ses bras, le tenait par sa veste. Il se débattait vigoureusement, mais ces gamins ne le lâchaient pas. Un agent, que Pony Bibi avait été chercher à bicyclette, arrivait à toute vitesse. Le directeur lui conseilla d'arrêter l'homme. Grundeis ou Müller, c'était vraisemblablement un voleur spécialisé dans les vols en chemin de fer. S'octroyant un congé, le caissier alla chercher les billets et l'épingle et se joignit au défilé. Car c'était un vrai défilé. Le voleur entre l'agent et l'employé, et derrière eux, 90 à 100 enfants qui montaient la garde. Pony Bibi suivait sur sa bicyclette. Elle fit un signe de tête amical à l'heureux Émile en lui criant « Émile, mon vieux, je vais vite à la maison pour leur raconter toute l'histoire !» Le gamin lui répondit « Je rentrerai à midi, dis-leur bonjour pour moi !» Pony Bibi cria encore « Savez-vous à quoi vous ressemblez ? À une colonie de vacances !» Puis elle tourna le coin de la rue en faisant retentir bruyamment sa sonnette comme d'habitude. « Drin, 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 drin !» Chapitre 15. Émile à la préfecture de police. La troupe se rendit au poste de police voisin. L'agent raconta au commissaire ce qui s'était passé. Émile compléta le récit. Puis il dut expliquer quand et où il était né, comment il s'appelait et où il demeurait. Le commissaire prenait des notes.
« Et comment vous appelez-vous » demanda-t-il au voleur.
« Herbert Kiesling, K-I-E-S-L-I-N-G, » répondit le misérable. À ces mots, les gamins, Émile, Gustave et le professeur, ne purent s'empêcher de rire. Et l'employé de banque qui avait remis l'argent au commissaire se joignit à eux.
« Oh mon Dieu, quel numéro !» s'écria Gustave. « Il s'appelait d'abord Grundeis, ensuite Müller. Maintenant c'est Kiesling. Je suis vraiment curieux de savoir comment il s'appelle pour de bon. »«
Silence !» gronda le commissaire. « Nous allons tirer cela au clair. »
Monsieur Grundeis Müller Kiesling donna son adresse à l'hôtel Kreid, puis la date et le lieu de sa naissance. Il n'avait aucun papier d'identité.
« Et où étiez-vous jusqu'à hier ?» demanda le commissaire.
« À Grossgrunau, » répondit-il.
« Encore un mensonge !» s'écria le professeur.
« Silence !» gronda de nouveau le commissaire.
Le caissier demanda s'il pouvait se retirer. On prit d'abord son identité. Puis il tapa amicalement sur l'épaule d'Émile et s'en alla.
« Kiesling, demanda le commissaire, avez-vous volé hier dans le train de Neustadt à Berlin au jeune Émile Tischbein 140 marks ?»«
Oui, avoua le voleur. Je ne sais plus comment cela s'est fait. Le gamin dormait dans son coin
L'enveloppe est tombée de sa poche. Je l'ai ramassée et d'abord je ne voulais que regarder ce qu'elle contenait. Et je n'avais plus d'argent moi-même.
« Quel farceur !» s'écria Émile. « J'avais attaché mes billets à la poche de ma veste. Ils ne pouvaient donc pas tomber. »
« Et d'ailleurs, il n'en avait pas si grand besoin, » fit remarquer le professeur. « Sans cela, les billets d'Émile ne seraient pas restés intacts dans sa poche. Entre-temps, il s'est payé un taxi, des sandwichs et de la bière. »«
Silence !» répéta le commissaire. « Nous allons tirer cela au clair. »
Il notait tout ce qu'on lui racontait. « Voulez-vous me permettre de m'en aller, monsieur l'agent ?» demanda le voleur très poliment. « Je vous ai rendu le montant du vol et vous savez où je demeure. J'ai quelques affaires à traiter à Berlin et quelques questions à régler. »«
Vous voulez rire ?»
dit le commissaire. Et il téléphona à la préfecture pour demander une voiture, car son poste avait pincé un voleur. « Quand me rendra-t-on mon argent ?» demanda Émile soucieux.
« À la préfecture de police, dit le commissaire. On va vous y emmener tout de suite, et là-bas, tout s'arrangera. »«
Émile, mon vieux, dis donc, on va te transporter dans le panier à salade, » murmura Gustave.
« Quelle absurdité, dit le commissaire. As-tu de l'argent, Tischbein ?»«
Oui, répliqua Émile. Les gamins ont fait une collecte hier, et le portier de l'hôtel Kreid m'a avancé 10 marks. »«
De vrais détectives, polisson que vous êtes !» gronda le commissaire, mais son intonation était très bienveillante.
« Alors, Tischbein, tu vas prendre le métro jusqu'à la place Alexandre et tu te présenteras à l'huissier du tribunal correctionnel, M. Lourieux, L-U-R-J-E. Et puis après, tu verras. On te rendra ton argent là-bas. »«
Faut-il que je rende d'abord au portier ces 10 marks ?» demanda Émile.
« Naturellement. »
L'auto de la préfecture arriva quelques minutes plus tard, et M. Grundeis Müller-Kissling fut bien obligé d'y monter. On donna à l'agent qui était assis dans la voiture le procès-verbal écrit, les 140 marques et les pannes. Et la voiture s'ébranla. Les enfants massés dans la rue ne se privèrent pas de huer le voleur. Mais celui-ci ne sembla pas s'en apercevoir. Il était peut-être très fier de rouler en voiture.
Émile donna une poignée de main au commissaire et le remercia. Puis le professeur expliqua aux enfants qui avaient attendu dehors qu'Émile allait retrouver son argent à la préfecture et que la chasse à l'homme était terminée. Seuls les intimes accompagnèrent Émile à l'hôtel et à la station de la place Nollendorf. Il leur dit qu'il téléphonerait le plus tôt possible au petit vendredi pour qu'ils sachent aussi comment les choses s'étaient passées. Il ajouta qu'il espérait bien les revoir avant de rentrer à Neustadt et qu'en tout cas, il les remerciait de tout son cœur pour leur aide et qu'il leur rendrait leur argent.
« Si tu l'oses, t'auras affaire à nous, » dit Gustave. « Au fait, nous devions boxer tous les deux à cause de ton drôle de costume. »«
Ah, je suis si content, » dit Émile, en serrant les mains de Gustave et du professeur. « Laissons la boxe tranquille. Je n'aurais vraiment pas le cœur de t'envoyer au tapis. »
« Ouais, tu y arriverais même pas, même si t'étais de mauvaise humeur, » s'écria Gustave.
Les trois gamins entrèrent dans la préfecture. Ils parcoururent de longs corridors et passèrent devant d'innombrables bureaux. Enfin, ils découvrirent l'huissier du tribunal correctionnel. Il était juste en train de déjeuner. Émile se présenta.
« Ah !» dit M. Lourgien entre deux bouchées. « Oui, Émile Tischbein, jeune détective amateur. Tu es annoncé par téléphone. Le juge veut te voir, il t'attend, viens avec moi. » Et il mordit encore une fois dans son sandwich.
« Nous t'attendons, » dit le professeur. Et Gustave ajouta.
« Fais vite, mon vieux, moi je meurs de faim quand je vois les autres manger. »
M. Lourieux enfila de nouveaux corridors, tourna à gauche, puis à droite et encore à gauche. Puis il frappa à une porte.
« Entrez !» cria une voix à l'intérieur.
Lourieux entre-ouvrit la porte et annonça
« Le jeune détective est là, monsieur le juge. Émile Fischbein, vous savez, je m'appelle Tischbein, avec un T et pas avec un F, » rectifia Émile. Un très joli nom, vraiment, répondit M. Lourieux, en allongeant à Émile une tape qu'il précipita dans le bureau. Le juge était un homme aimable. Émile fut invité à s'asseoir dans un fauteuil confortable et à raconter depuis le commencement et dans tous ses détails l'histoire du vol. Quand il eut fini, le juge lui dit solennellement « Bon, eh bien maintenant, voici ton argent. »
Dieu soit loué.
Émile poussa un gros soupir de soulagement et mit son argent dans sa poche. Il l'y rangea avec grand soin.
« Mais ne te laisse pas voler de nouveau !» ajouta le juge.
« Oh non, pas de danger, je vais la porter tout de suite à grand-mère. »«
C'est vrai, dit le juge, j'avais oublié. Donne-moi donc ton adresse à Berlin. Est-ce que tu restes encore quelques jours ici ?»«
J'espère bien, dit Émile. J'habite 15 rue Schumann, chez monsieur Heimbold. C'est le nom de mon oncle et celui de ma tante aussi. »
Vous avez très bien mené votre affaire, dit le juge en allumant un gros cigare.
Les camarades se sont bien débrouillés, c'est vrai, s'écria Émile avec tout le feu de l'enthousiasme. Ce Gustave avec sa trompe de bicyclette, et le professeur, et le petit vendredi, et Krumbiegel, et les frères Mittensfey, tous vraiment. Ah, c'est un plaisir de travailler avec eux. Le professeur surtout, c'est un as.
« Eh ben, toi-même, tu n'es pas une gourde, il me semble, »
dit le juge en tirant de grosses bouffées de son cigare.
« Je voudrais savoir, monsieur le juge, demanda Émile, ce qu'on va faire de Grundeis, mon voleur, enfin, quel que soit son nom.
Nous l'avons envoyé au service d'identification. Là-bas, on va le photographier et prendre ses empreintes digitales. Puis, nous comparerons sa photo et ses empreintes avec celle que nous avons au sommier.
S-O-2-M-I-E-R. Comme le sommier d'un lit, le juge va t'expliquer ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons les photos de tous les criminels qui ont déjà été punis, et nous avons aussi les empreintes des pieds et des mains de beaucoup de criminels qu'on n'a pas encore pu attraper. Il est bien possible que ton voleur ait commis d'autres méfaits avant de te prendre ton argent, n'est-ce pas?
Ah oui, sûrement, je n'y avais pas pensé.
Un moment, dit l'aimable juge, car la sonnerie du téléphone avait retenti.
Oui, oui, une affaire intéressante pour vous. Venez donc dans mon bureau, dit-il.
Il posa l'écouteur.
Quelques journalistes vont venir tout de suite pour t'interviewer.
C'est-à-dire, demanda Émile.
Ils veulent te poser des questions.
« Pas possible !» s'écria Émile. « Mais alors je serai dans le journal ?»«
Probablement. Quand un gamin attrape un voleur, il devient célèbre. »
On frappait à la porte. Quatre messieurs entrèrent. Le juge leur tendit la main et leur résuma l'aventure d'Émile. Les quatre messieurs se mirent à écrire.
« Excellent !» conclut l'un des reporters. « Le petit paysan détective !»
« Vous allez peut-être l'engager dans vos services, » ajouta un autre en riant.
« Et pourquoi n'es-tu pas allé tout de suite chercher un agent pour lui raconter ton histoire ?» demanda le troisième.
Émile eut un peu d'angoisse. Il pensait à Jeschke, le gendarme de Neustadt, et à son rêve. Il eut froid dans le dos.
« Oui, pourquoi ?» demanda le juge d'un ton engageant.
Émile leva les épaules et répondit.
Eh bien, voilà.
C'est parce que, à Neustadt, j'ai peint un nez rouge et une moustache sur la statue du grand-duc. Voulez-vous m'arrêter, monsieur le juge ?
Et les cinq messieurs, au lieu de faire des visages sévères, éclatèrent de rire. Le juge s'écria, voyons, Émile, nous n'allons pas jeter en prison un de nos meilleurs détectives.
Non, vraiment.
Ah, je suis bien content, dit le gamin soulagé,
s'approchant de l'un des reporters. Vous ne me reconnaissez pas ? Demanda-t-il.
Non.
Pourtant, hier, dans un tramway de la ligne 177, vous m'avez payé ma place parce que je n'avais pas d'argent.
Ah, parfaitement, je me souviens à présent. Tu voulais même savoir mon adresse pour me rendre ma monnaie.
La voulez-vous ?
demanda Émile qui tira 10 pfennigs de sa poche.
Voyons, laisse-la. Ne t'étais-tu pas présenté à moi?
Si, je le fais souvent, je m'appelle Tischbein. Et moi, Kestner. K-A-S-T-N-E-R, répondit le journaliste. Ils échangèrent une poignée de main.
C'est splendide! S'écria le juge. Vous voici donc de vieilles connaissances.
Écoute, Émile, dit M. Kestner, veux-tu venir avec moi à la rédaction de mon journal?
Nous commencerons par aller manger quelques gâteaux à la crème.
Puis-je vous inviter? Demanda Émile.
Oh, quel amour propre, ce gamin! Les journalistes étaient ravis. Non, tu me laisseras t'inviter, dit Kestner.
Très volontiers, mais le professeur et Gustave m'attendent.
Ben, nous les emmènerons, naturellement, déclara Kestner.
Les autres journalistes avaient encore 1000 questions à poser. Émile leur donna des précisions dont ils prirent note. Le voleur est-il un débutant? Demanda l'un d'eux.
Je ne crois pas, répondit le juge. Il se pourrait même que nous ayons une grosse surprise.
Appelez-moi donc au téléphone dans 1 heure, messieurs. On se sépara. Émile, accompagné de Kestner, alla retrouver M. Lourieux. Celui-ci mangeait toujours et s'exclama.
Ah, voici le petit Überbein.
Tischbein, rectifia Émile. M. Kestner fit monter Émile, Gustave et le professeur dans sa voiture et les conduisit d'abord dans une pâtisserie. Pendant le trajet, Gustave fit retentir sa trompe. Et les gamins s'écroulèrent de rire devant le sursaut de Kestner. Dans la pâtisserie, ils se montrèrent très en train. Ils mangèrent des tartes et des gâteaux à la crème et racontèrent tout ce qui leur passait par la tête. Ils parlèrent du conseil de guerre, de la place Nikolsburger, de la poursuite en auto, de leur nuit à l'hôtel, du déguisement de Gustave, du scandale à la banque. À la fin, Kestner déclara « Vous êtes 3 gaillards !» Ils se sentirent très fiers et mangèrent encore quelques tartes. Gustave et le professeur prirent ensuite un autobus. Émile promit de téléphoner le jour même au petit vendredi et il entra avec M. Kestner dans les bureaux de la rédaction. L'immeuble qui abritait le journal était immense, presque aussi grand que la préfecture de police. Les couloirs étaient remplis de gens qui couraient fiévreusement. On eût dit qu'ils fuyaient un tremblement de terre. Émile et Kestner entrèrent dans un bureau occupé par une charmante jeune fille blonde. Kestner, en arpentant le bureau, dicta à la sténo ce que lui avait raconté Émile. Il s'arrêtait de temps en temps et demandait « C'est bien ça, n'est-ce pas ?» Émile approuvait et l'autre commençait à dicter. Puis il appela le juge au téléphone.
« Qu'est-ce que vous dites ?» s'écria Kestner devant l'appareil. « Oh, mais ça, c'est formidable! Il ne faut pas que je lui dise encore. Vraiment, je suis enchanté. Merci 1000 fois, quelle affaire !»
Il raccrocha, regarda le gamin comme s'il ne l'avait pas encore vu. « Émile, viens avec moi. Nous allons te faire photographier. »«
Ça alors !» se dit Émile au comble de l'étonnement.
Mais, obéissant, il suivit M. Kestner 3 étages plus haut, dans une pièce très éclairée par de grandes fenêtres. Il se recoiffa et fut photographié. Pour finir, M. Kestner l'emmena dans la salle de composition. Quel tintamarre ! Où il remit les feuilles de papier tapées par la demoiselle blonde et annonça qu'il allait revenir tout de suite, car il était arrivé quelque chose de très important, mais il devait d'abord renvoyer Émile chez sa grand-mère. Ils descendirent au rez-de-chaussée par l'ascenseur et sortirent de l'immeuble. M. Kestner héla un taxi, mit Émile dedans, donna de l'argent au chauffeur, malgré les protestations du gamin, et dit « Conduisez mon jeune ami au 15 rue Schumann. » Ils échangèrent une cordiale poignée de main et M. Kestner ajouta « Salue ta mère de ma part quand tu reviendras à la maison. Ça doit être une excellente femme. »
« Oh, je vous crois !» dit Émile.
« Et puis !» cria encore Kestner tandis que l'auto démarrait. « N'oublie pas de lire le journal ce soir. Tu seras étonné de ce que tu y verras. » Émile se retourna et salua amicalement. Et l'auto disparut dans un tournant. Chapitre 16. Le juge envoie ses compliments. L'automobile arrivait sur l'avenue Unter den Linden. U-N-T-E-R, plus loin D-E-N, plus loin L-I-N-D-E-N. C'est la plus grande avenue de Berlin, un peu comme les Champs-Élysées à Paris. Le nom Unter den Linden veut dire sous les tilleuls, parce qu'elle est plantée de tilleuls, bien sûr. Émile cogna à la vitre. La voiture s'arrêta. Le gamin demanda : Nous y arrivons bientôt, monsieur ? Oui, répondit le chauffeur. Je regrette de vous déranger, mais il faut d'abord que je passe Kaiserallee, au café Josti. J'ai laissé là-bas ma voiture et un bouquet de fleurs pour ma grand-mère. Seriez-vous assez aimable ?
Il ne s'agit pas d'être aimable. As-tu de l'argent si celui que j'ai reçu ne suffit pas ?
Oui, j'en ai, monsieur. Et il me faut absolument mes fleurs.
Bon, bon, fit l'homme.
Il tourna à gauche, passa sous la porte de Brandebourg, B-R-A-N-D-E-B-O-U-R-G. C'est une espèce d'arc de triomphe qui est à Berlin. Traversa le Tiergarten, T-I-E-R-G-A-R-T-E-N. C'est le jardin zoologique, bien ombragé et tout vert. Et arriva place Nollendorf. Émile trouvait maintenant à la place un aspect beaucoup plus innocent. Il tâta prudemment sa poche. L'argent y était bien. Puis ils montèrent la rue Motz jusqu'au bout, tournèrent à droite et s'arrêtèrent devant le café Josti. Émile descendit, alla au comptoir, pria la jeune employée de bien vouloir lui rendre ses fleurs et sa valise. Il reçut son bien, remercia, remonta en auto et dit « Allez, monsieur le chauffeur, et maintenant chez grand-mère. » Ils firent demi-tour, traversèrent la Spree, S-P-R-2-E, c'est la rivière qui traverse Berlin, et prirent de vieilles rues aux maisons toutes noires. Le gamin aurait bien volontiers regardé de tous les côtés, mais il n'y avait pas moyen. Sa valise glissait toujours, ou bien le vent arrachait le papier qui entourait ses fleurs et le déchirait. Émile devait faire attention que son bouquet ne s'envolât pas à son tour. Je pense qu'à cette époque, les taxis de Berlin, comme beaucoup de taxis de Paris d'ailleurs, étaient ouverts et non pas fermés. L'auto s'arrêta. On était arrivé 15 rue Schumann. « Nous y voici, » dit Émile en descendant. « Vous dois-je encore de l'argent ?»« Non, c'est moi qui te dois 30 pfennig. » Ça fait à peu près 3 francs.
« Bon, eh bien, avec vous achèterez des cigares, » dit Émile. « Je chic, jeune homme, » rétorqua le chauffeur. Et il s'en alla.
Chiquer, c'est mâcher du tabac au lieu de fumer. Émile monta au troisième étage et sonna chez les Heinbold. On entendit un grand cri derrière la porte, puis celle-ci s'ouvrit. La grand-mère était sur le seuil, elle saisit Émile par le cou, lui donna en même temps un baiser sur la joue gauche et une tape sur la joue droite, et puis elle le fit entrer en lui tirant l'oreille en criant « Maudit gredin, maudit gredin !»« C'est du joli tout ce que nous avons entendu raconter, » dit la tante Marthe avec bienveillance, et elle lui tendit la main. Bonnie Bibi lui offrit son coude, elle portait un tablier de sa mère et s'écria « Attention, j'ai les mains mouillées, je suis en train de laver la vaisselle !» « Ah, pauvre femme que nous sommes !» Ils pénétrèrent tous les quatre dans la salle à manger. Émile dut s'asseoir sur le divan. Grand-mère et tante Martha le considéraient comme elles eussent contemplé un objet très précieux. « T'as le fric ?» demanda Pony Bibi. « Évidemment !» Émile sortit les 3 billets de sa poche et donna 120 marques à sa grand-mère en disant « Voici l'argent, grand-mère. Et maman t'embrasse bien. Elle te prie de ne pas lui en vouloir si elle ne t'a rien envoyé le mois dernier. Les affaires n'allaient pas très bien. Mais c'est pour ça qu'elle t'en envoie un peu plus aujourd'hui. Je te remercie bien, mon garçon, répondit la vieille femme, et elle lui rendit le billet de 20 marques. Voilà pour toi. Tu l'as bien mérité. Tu as été un si bon détective. Non, grand-mère, je ne veux pas. Maman m'a déjà donné 20 marques.
Émile ? « On doit toujours obéir à sa grand-mère. Allez, garde ça. »«
Non, je ne veux pas.
Quel type ! S'écria Pony Bibi. C'est moi qui ne me le ferai pas dire deux fois. Oh non, je t'en prie, grand-mère. Si tu ne le prends pas, la colère va me donner une crise de rhumatisme, expliqua la grand-mère. Vite, allons, mets ce billet de côté, dit tante Martha en le lui fourrant dans sa poche. Bon, alors, si vous le voulez absolument, gémit Émile. Merci beaucoup, grand-mère. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie, répliqua-t-elle en caressant les cheveux du gamin.
Émile saisit son bouquet. Pony alla chercher un vase. Mais lorsque les fleurs furent dépaquetées, on ne savait plus s'il fallait rire ou pleurer de les voir dans cet état. « Ah, de vrais légumes secs !» s'écria Pony. « Elles n'ont pas eu d'eau depuis hier après-midi, » expliqua Émile mélancolique. « C'est pas étonnant qu'elles soient fanées. Quand nous les avons achetées hier, maman et moi, elles étaient très fraîches. « je le crois, » dit la grand-mère. Et elle plaça les fleurs dans l'eau. « Elles reviendront peut-être, » ajouta la tante Martha. « Allons, venez déjeuner maintenant. Ton oncle ne revient que le soir pour dîner. « Pony, tu mets le couvert. »« Oui, » répondit la fillette. « Émile, devine ce qu'il y a pour déjeuner. »« J'en ai aucune idée. »« Mais qu'est-ce que tu préfères ?»« Du macaroni au jambon. »« Alors, tu sais ce qu'il y a. » Émile avait mangé du macaroni au jambon pas plus tard que la veille. Mais premièrement, on accepte très aisément de manger presque tous les jours son plat préféré. Et ensuite, Émile avait l'impression qu'une semaine au moins s'était écoulée depuis qu'il avait déjeuné avec sa mère à Neustadt. Il se jeta sur le macaroni comme s'il eût été M. Grundeis Müller-Kissling en personne. Après le déjeuner, les enfants allèrent un peu courir dans la rue parce qu'Émile voulait essayer la bicyclette de Pony. Grand-mère s'allongea sur le divan et tante Martha mit au four un de ces gâteaux aux pommes célèbres dans la famille. Émile pédalait le long de la rue Schumann. Bibi courait derrière lui et le tenait par la selle. Elle prétendait que c'était nécessaire pour empêcher son cousin de tomber. Puis, quand il fut descendu, elle prit sa place et lui montra comment elle faisait des cercles, des trois et des huit. Un agent de police portant une serviette de cuir s'avança vers eux. « Mes enfants, au numéro 15 de cette rue habite bien la famille Heimbold, n'est-ce pas ?»« Oui, dit Pony, c'est nous. Un moment, monsieur le major. » Et elle rangea sa bicyclette à la cave. « Est-il arrivé quelque chose de grave ?» demanda Émile. Il se rappelait toujours ce maudit Jeschke, le gendarme de Neustadt. « Au contraire, est-ce toi le jeune Émile Tischbein ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, on peut vraiment te féliciter. »« De quoi ?» s'enquit Pony qui revenait vers eux. Mais l'agent ne voulait rien dire, et il monta l'escalier. Tante Martha le fit entrer dans la salle à manger. La grand-mère s'éveilla et se redressa, toute curieuse. Émile et Bibi, devant la table, attendaient dans une impatience fébrile. « Voici l'affaire, » dit l'agent, et il ouvrit sa serviette. Le voleur qu'Émile Tischbein a fait arrêter aujourd'hui est identifié. C'est un bandit que l'on cherchait depuis 4 semaines à Hanovre. Ce misérable a commis dans une banque un vol très important. Notre service d'identification l'a reconnu. Il a déjà avoué d'ailleurs. On a retrouvé une grosse somme d'argent cachée dans sa doublure. Des billets de 1000 marks. 1000 marks, ça fait 10 000 francs d'aujourd'hui. Oh, ça c'est une affaire, s'écria Pony. La banque, continua l'agent, avait promis une prime il y a 15 jours pour celui qui découvrirait le coupable. « C'est à toi qu'on la donne, » ajouta-t-il en se tournant vers Émile, « puisque c'est toi qui as fait prendre le voleur. Le juge t'envoie ses compliments et se réjouit de savoir que ton habileté est récompensée. » Émile s'inclina. L'agent tira de sa serviette une liasse de billets et les étala sur la table en les comptant. Quand il eut fini, tante Martha, qui l'avait regardé faire très attentivement, murmura « 1000 marks, 10 000 francs !»« Peste !» s'écria Pony. Grand-mère signa un reçu, et l'agent s'en alla. Mais auparavant, tante Martha lui fit prendre un grand verre d'eau-de-vie qu'elle tira de l'armoire de l'oncle. Émile s'était assis à côté de sa grand-mère et ne pouvait pas dire un mot. La vieille femme l'entoura de ses bras et secouant la tête. « C'est pas croyable, » dit-elle, « ça n'est pas croyable !» Pony Bibi, grimpée sur une chaise, se mit à battre la mesure comme si elle conduisait un chœur et elle chanta « nous inviterons la bande à goûter !»« Oui, » dit Émile, « sûrement, mais avant tout, peut-être, maman pourrait-elle venir aussi à Berlin? Qu'en pensez-vous » Fin de la deuxième face de la troisième cassette, page 166, Émile et les détectives, par Erich Kästner.